the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Le journal de la présidence Trump, notre rendez-vous hebdomadaire avec Frédéric Carbone en direct de Washington. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
La date symbolique, Frédéric, des 100 jours à la Maison-Blanche est passée et avec elle, pardon, le risque de ce qu'on appelle chez vous un shutdown. Dites-nous de quoi il s'agit, Frédéric, et ce qui a été évité.
Eh bien, vous savez, c'est l'épée de Damoclès qui plane chaque année sur le gouvernement, le Congrès qui refuse de voter les dépenses publiques. Obama, par exemple, n'y avait pas échappé en 2013. 3 semaines de blocage complet. Là, a priori, avec une majorité largement républicaine, il n'y avait pas de risque, sauf que Donald Trump avait lui-même réveillé cette menace en posant des exigences extrêmes. Finalement, la nuit dernière, compromis au Congrès, ça devrait être voté d'ici la fin de la semaine, mais le président américain n'aura pas de financement particulier pour le mur avec le Mexique, et à l'inverse, il a dû accepter de ne pas couper des fonds, ni au familiale, ni à des agences fédérales, notamment le prestigieux Institut de Recherche Médicale, le NIH. Ça s'appelle l'apprentissage de la réalité politique et c'est quasiment une victoire pour les démocrates.
Voilà, donc la paralysie est évitée, Frédéric, et maintenant il faut des résultats et une véritable action législative.
Bah, c'est-à-dire qu'on attend toujours, au-delà des décrets sans grand impact immédiat, le vote de la première loi emblématique de la présidence Trump. Alors, attendez-vous dans les jours qui viennent au retour de la réforme de la santé. Un compromis a été trouvé avec les conservateurs qui avaient provoqué l'échec le mois dernier au Congrès. Mais maintenant, ce sont les républicains modérés qui protestent. Trop de gens, selon eux, seraient fragilisés. Et puis, autre négociation ardue, la réforme fiscale. Réduction massive d'impôts, texte défendu par le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, ancien dirigeant de la banque Goldman Sachs. Et l'entourage de Donald Trump doit se défendre d'accusations de loi pour les riches. Voici ce que dit Reince Priebus, le secrétaire général de la Maison-Blanche.
Si vous regardez cette loi, même si ça baisse de 35% pour les plus riches, il y a aussi beaucoup de déductions fiscales qui vont disparaître. Donc des personnes comme Donald Trump ou Steve Mnuchin ne vont pas voir leurs impôts diminuer. Franchement, il ne s'agit pas d'augmenter les taxes pour les plus riches, il s'agit d'une réduction massive pour ce qui préoccupe le plus le président, c'est-à-dire la classe moyenne.
Alors Donald Trump devrait d'ailleurs lui-même porter cette réforme et, comme Ronald Reagan en son temps, sillonner les États-Unis pour convaincre que cette loi est nécessaire. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à la transparence fiscale de la part du président américain. Il est, vous le savez, le seul à ne pas avoir rendu public sa déclaration d'impôt, limitant ainsi tous les soupçons. Question donc posée à Steve Mnuchin, Donald Trump compte-t-il désormais informer les Américains de sa fortune et des impôts qu'il paye ?
Le président n'en a aucune intention. Il a déjà rendu public beaucoup d'informations. Personne n'a dévoilé autant sur ses finances, donc les Américains savent à quoi s'en tenir.
Donald Trump corrige un petit peu cette réponse définitive. Il répète qu'il est en plein contrôle fiscal et qu'après, peut-être, il réfléchira.
On passe, Frédéric, au dossier de politique étrangère. Ils sont toujours sur le bureau de Donald Trump. En haut de la pile, la Corée du Nord est sur le sujet. Frédéric, ça reste nébuleux.
C'est vrai, mais il y a l'impression d'un calendrier en deux temps, sans échéance précise. D'abord, confiance absolue à la Chine pour faire pression sur son voisin. Le président Xi Jinping a droit aux qualificatifs les plus louangeurs. Et puis, édification d'une sorte de coalition anti-Corée du Nord où tous les pays asiatiques sont consultés. Japon, Corée du Sud évidemment, mais aussi Thaïlande, Singapour et même le peu fréquentable président philippin Duterte. Celui, vous en souvenez, qui a insulté Obama parce qu'il osait critiquer ses méthodes de lutte contre le trafic de drogue. Eh bien, Duterte, lui aussi, va avoir droit à une invitation à la Maison-Blanche. Donc, extrême fermeté et en même temps, la porte n'est pas totalement fermée à un dialogue avec les dirigeants nord-coréens. Écoutez les mots que Donald Trump emploie pour parler de Kim Jong-un.
Les gens se demandent s'il est sain d'esprit, moi je n'en ai aucune idée, mais ce que je peux dire, c'est qu'il était jeune, 26-27 ans, quand son père est mort et qu'il lui a succédé. Il a dû composer avec des gens rudes, comme ses généraux, et à son âge, il a été capable d'assumer le pouvoir, alors que d'autres, comme son oncle, voulaient lui prendre. Donc à l'évidence, c'est un petit malin.
Rarement le dictateur nord-coréen a été traité de petit malin. On a là en tout cas une illustration supplémentaire de l'ultra-personnalisation de la politique étrangère version Trump. Tout est dans les rapports directs, c'est vrai sur la crise nord-coréenne. Ça l'est aussi quand il s'agit de discuter de différends que l'on peut avoir entre amis. Donald Trump a ainsi été à deux doigts de se retirer du traité commercial nord-américain. Et puis, la suite, c'est lui qui la raconte.
Je voulais abroger ce traité, mais j'ai reçu un coup de téléphone très sympa de mon ami le président mexicain et un autre de Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Et ils m'ont demandé si je voulais négocier plutôt que de me retirer. Alors j'ai dit oui, je vais négocier.
Alors, la version canadienne n'est pas exactement la même. Le coup de fil n'a pas été aussi amical, plutôt du genre « tu n'es quand même pas capable de faire une telle erreur », mais il faudra s'habituer à une forme de mise en scène publique des relations internationales par Donald Trump.
Allez, on termine, Frédéric, avec un mot du rituel dîner des correspondants, pendant lequel la presse et le président se rencontrent le temps d'une soirée. En torse au rituel, Donald Trump n'en était pas.
Il avait préféré samedi soir bouder la réception pour aller faire un meeting en Pennsylvanie, ne manquant pas l'occasion de surligner lourdement la différence entre le pays réel et le monde des médias et d'Hollywood, mais très probablement en revenant à la Maison-Blanche, il s'est précipité comme souvent devant sa télévision pour regarder les comptes rendus des uns et des autres, d'où l'avertissement lancé aux journalistes lors de ce dîner des correspondants par l'orateur vedette de la soirée, le comédien d'origine indienne Hasan Minhaj.
Eh les gars, vous devez être plus parfaits que jamais parce que c'est de vous dont le président tire ses informations. Pas de ses conseillers, pas des experts, pas de la CIA, mais de vous. Donc vous ne pouvez pas faire la moindre erreur, parce que si l'un de vous se plante, Trump accuse toute votre profession. Alors maintenant, vous savez ce qu'on ressent quand on fait partie d'une minorité.
Alors, une minorité que, visiblement, Nicolas, Donald Trump avait choisi de traiter réellement par le mépris lors de cette soirée. Elle n'a même pas eu droit à un tweet vengeur venu de la Maison-Blanche le lendemain.
Frédéric Carbone, en direct de Washington. Merci.